grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que ça veut dire d'être libre? Pourquoi parle-t-on? Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce que le mensonge? D'où venons-nous? Des questions que les enfants nous posent régulièrement. Et si on commençait à philosopher dès la maternelle? Pourquoi attendre la classe de première pour s'y mettre? Les enfants sont souvent des apprentis philosophes car ils s'étonnent. Et on le sait, l'étonnement, c'est l'une des bases fondamentales de la pensée. Pour Montaigne, on a grand tort de peindre la philosophie inaccessible aux enfants. Mais comment aborder certaines grandes questions que se posent les enfants? Comment les initier au maniement des idées et des concepts? Comment développer leur esprit critique? Comment faire pour que leur questionnement philosophique soit l'occasion d'échanges féconds avec les adultes? Comment s'y prendre en famille pour développer leur capacité de réflexion? Comment en faire un jeu de l'esprit? Et puis, esprit critique oblige, nous verrons si c'est un leurre de les initier à la philosophie. Aussitôt, autour de la table, ce matin, Aïda Ndiaye, professeur de philosophie, Martine Lafont, docteur en philosophie, et Gwenaëlle Boulet, rédactrice en chef du bimensuel Astrapi. De 7 à 97 ans, vous pouvez réagir au 01 45 24 7000 sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse et sur l'appli France Inter. Les enfants peuvent également nous appeler. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1. C'est notre dernière ensemble dans Grand Bien Vous Fasse. Le thème de la une du 1 cette semaine.
On se demandera justement, on parlera d'écologie, de philosophie, comment les philosophes parlent d'écologie et s'intéressent à la question.
A tout à l'heure Julien Bisson. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse.
Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
Qu'est-ce que le bonheur? À 6 ans, ces enfants ont déjà leur petite idée.
Le bonheur, eh ben, ça me fait m'amuser et aussi rigoler.
Je suis d'accord avec Chara, parce que quand on est au bonheur et quand on aime bien quelque chose ça, et qu'on a un sourire, après ça c'est le bonheur.
Moi je dis le bonheur c'est quand on a des cadeaux et qu'on travaille bien à l'école.
Bienvenue à nos invités, c'est un extrait des maternelles en 2018. Bonjour Aïda Ndiaye.
Bonjour Ali.
Vous êtes agrégée de philosophie et vous publiez chez Nathan « Je découvre la philosophie » ou « Comment apprendre à se poser des questions et à réfléchir ». Bonjour Martine Lafont.
Bonjour.
Vous êtes docteur en philosophie et vous avez notamment traduit le best-seller Le Monde de Sophie, c'est bien ça?
Oui, 1 500 000 exemplaires.
Exactement, un formidable roman philosophique qui met en scène une petite fille qui pose des milliers de questions philosophiques. Bonjour Gwenaëlle Boulet.
Bonjour.
Vous êtes la rédactrice en chef du bimensuel Astrapi et vous êtes venue avec votre fille Salomé, âgée de 10 ans, qui nous posera sans doute ce matin des questions métaphysiques. Bonjour Salomé.
Bonjour.
Et vous avez publié chez Bayard Jeunesse les grandes questions philo, 2 volumes pour les 7-11 ans et le deuxième volume est destiné aux 7 à 107 ans, c'est
oui.
Ça alors, les enfants se posent beaucoup de questions sans filtre, ils s'étonnent sans cesse, sans autocensure. Aristote nous dit que la philosophie naît avec l'étonnement et l'émerveillement, et l'étonnement et l'émerveillement, ce sont deux qualités que possèdent les enfants. Aïda Ndiaye, ce sont de parfaits philosophes. Apprentis philosophes, les enfants?
Oui, je pense qu'aujourd'hui c'est presque, enfin c'est connu de la plupart des gens. Ils ont cette absence, je pense, de censure si on compare ce qu'on peut faire dans une classe de petits en maternelle et ce qui se passe dans une classe en terminale, puisqu'on apprend la philosophie qu'en terminale au lycée. On voit bien que la capacité des enfants à dire ce qu'ils pensent, en fait, tout simplement, et effectivement à se poser tout un tas de questions sans être dans une forme de dogmatisme, de penser à des réponses toutes faites, est bien plus importante, en fait, et s'érode, en fait, dans le temps avec l'apprentissage scolaire qui malheureusement parfois ferme un petit peu cette capacité à se poser des questions.
Martine Lafont.
Alors moi j'ai vu cette expérience-là justement après Le Monde de Sophie où on était invité beaucoup dans les classes maternelles et primaires, c'est vrai. Ils ont cette capacité de se poser des questions et aussi je crois qu'il faut qu'il y ait un vrai dialogue. C'est-à-dire que c'est pas seulement tu dis quelque chose et puis « Ah, c'est formidable !» Non, je pense que l'idée, c'était aussi beaucoup de s'écouter. Je me souviens, il y avait des bâtons de parole. On s'écoutait, on relançait le questionnement. On essayait de voir si on pouvait aller dans cet itinéraire-là ou un autre. Et ça, je pense que c'est fécond. Sinon, ça risque d'être un petit peu... c'est formidable, il s'étonne. Bon, oui, mais est-ce qu'on va plus loin ou pas ?
Gwenaëlle Boulet.
Oui, c'est ça. En fait, il y a deux choses. Il y a un, vraiment cette capacité d'étonnement qui est extraordinaire chez l'enfant à partir de 3-4 ans. On voit bien qu'il est sur les questions de la mort, les grandes questions existentielles, etc. Donc ça va être comment nous, adultes, que ce soit dans le cadre scolaire ou familial ou d'éducateur, on va pouvoir encourager tout ce questionnement. Et puis, comment effectivement, alors là où ils en sont, parce qu'on va voir qu'ils pensent pas pareil à 4 ans qu'à 7 ans ou à 8 avec l'arrivée de l'âge de raison, qui n'est pas pour rien, comment en fait petit à petit, en s'adaptant à leur âge, on va pouvoir les aider à construire une pensée. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée c'est pas de parler comme ça, mais c'est vraiment de réfléchir avant de parler et de se dire je pense ce que je dis, pas je dis ce que je pense, ce qui est pas tout à fait la même chose.
Martine Lafont.
Oui, c'est la légitimité de la parole et d'où on se place, ça c'est très important. Mais encore une fois, l'adulte ou l'intervenant ou l'institutrice ou le parent est là pour aller plus loin, c'est-à-dire les emmener vers des horizons qu'ils n'auraient pas forcément perçus. Et qu'est-ce qui va les intéresser là? C'est justement parce que on va les relancer sur une bonne question. Et du coup, ça les interroge aussi. Hein, c'est pas seulement leurs propres questions, mais aussi nous, quelles questions on peut leur apporter pour que ils se construisent, comme dit Ganaël, qu'ils construisent leurs pensées, qu'ils avancent, qu'ils réfléchissent. Et puis, qu'ils choisissent. Hein, c'est ça aussi l'idée.
Aïdan Diaye.
Oui, en fait, ce qu'on fait finalement, c'est vraiment ça la philosophie, c'est-à-dire interroger les présupposés de leur réponse. Quand ils disent quelque chose, là, les enfants qu'on a entendus qui parlaient du bonheur, qui disent voilà, le bonheur, c'est quand j'ai un cadeau et quand j'ai une bonne note, bon, bah, du coup, on va interroger, essayer de faire des distinctions. Et c'est vrai que cet apprentissage-là, il peut se faire très, très tôt. Et en effet, ça les conduit à, quand même, à la fois à légitimer leurs propres paroles. Moi, je pense que c'est aussi ça qui est important, à apprendre qu'ils ont des choses à dire, en fait, sur plein de sujets sur lesquels ils pourraient penser que les paroles des adultes sont plus ont plus de poids, mais aussi à voir qu'à chaque fois ce qu'ils pensent en fait suppose d'autres choses et essayer d'affiner comme ça de plus en plus.
Tiens Salomé, 10 ans, c'est quoi le bonheur pour toi?
C'est d'être heureuse, de faire ce que je veux et avoir des bonnes notes à l'école pour faire ce que je voudrais quand je serai plus grande.
Elle était bien élevée, hein, Gwenaël Boulay.
Non. Alors, parce que pour en avoir discuté un petit peu avec elle sur d'autres sujets, je pense que ce qui, par exemple, là, si on était dans une discussion à visée philosophique, effectivement, on serait effectivement, j'imagine, sur qu'est-ce qui te rend heureuse là, maintenant, tout de suite. Et puis, on sent que le fameux, bon, avoir des bonnes notes à l'école, etc., c'est une intégration de l'idée qu'il y a des bonheurs qui sont différés. C'est-à-dire que, comme tout le monde, elle doit faire des efforts à l'école et que c'est pas toujours avec le sourire, quoi. Mais il y a l'idée d'un, en tout cas, je pense qu'on travaillerait, si on était dans une discussion visée philosophique, sur l'idée du, est-ce que le bonheur, il est forcément immédiat ou est-ce que il y a du bonheur qui est différé, qui est pour plus tard?
Alors, moi, je partirais pas là-dessus, je dirais. Est-ce que les performances sont donneuses de bonheur? Est-ce que la performance à l'école est une façon d'être heureux? Je ne le pense pas.
Mais peut-être que derrière ça, il y a de la reconnaissance ou il y a autre chose que de la performance.
Oui, mais là, on est dans l'estime de soi et puis après, on est dans la confiance en soi. En fait, je partirais sur qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui n'en dépend pas.
Aïdan Diaye.
Oui, bah moi je pense que je partirais sur la question effectivement de l'immédiateté quand elle dit le bonheur c'est ce qui me rend heureuse, donc effectivement la question c'est quoi maintenant, pourquoi, et après la question en effet c'est est-ce que le bonheur c'est quelque chose de forcément durable, enfin moi je partirais sur la distinction entre bonheur et plaisir en fait, du coup qui est la
mais là
distinction.
On a choix faire une séance entière hein,
c'est ça, je pense que c'est bon,
on est bon, on est bien parti,
après 3 adultes pour un enfant il y a un ratio peut-être un petit peu bizarre mais...
Alors, Edwige Chirouté est à la tête de la chaire pratique de la philosophie avec les enfants, fondée en 2016 par l'UNESCO, et elle affirme dans Le Parisien que les questions que se posent les petits ne sont pas fondamentalement différentes du programme de l'agrégation de philosophie. Je m'adresse à l'agrégé, là, Aïdan Diaye.
Mais ça, c'est une certitude. Enfin, de la même manière que tout l'enseignement qu'on fait, du coup, en terminale, n'est pas différent de l'enseignement des questions, en tout cas, qu'on se pose à l'agrégation.
Et elle ajoute tout de même que la difficulté, c'est le travail de pensée qui vient ensuite.
Bah, je pense que ce qui est assez difficile, c'est d'affiner. Enfin, en fait, ce qui est quand même difficile dans la philosophie, c'est l'analyse conceptuelle, qui est quand même une grande partie de la discipline. Et donc, c'est sûr que la manière dont on peut, avec un enfant, affiner les concepts, je sais pas, faire une distinction entre égalité et équité, par exemple, c'est compliqué, quoi. Donc, il faut trouver des manières de le dire ou de le faire qui soient plus accessibles aux enfants.
Oui, et puis c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure des âges. C'est-à-dire, par exemple, entre 3 et 7 ans sur la petite enfance, vous pouvez pas demander à un 3-7 ans de conceptualiser. Il est encore dans la pensée magique, ça faut pas l'oublier. Donc globalement, il y a cette pensée magique qui est très importante. En revanche, il va pouvoir, et puis ce qui va être compliqué pour lui entre 3-7 ans, c'est la distinction entre par exemple le je et le nous, de savoir passer de mon expérience personnelle. Alors il y a plein d'adultes qui arrivent toujours pas à le faire ça, mais bon, c'est là où ça se travaille. Mais de passer par exemple, est-ce que l'exemple vaut pour preuve? Par exemple, l'exemple, il y a un garçon qui fait ceci dans l'école. Est-ce que tous les garçons font ceci? Et on peut en avoir des conclusions. Donc, pour les petits 3-7 ans, la conceptualisation très compliquée. Le passage du je au on à quelque chose de plus global, très compliqué. En revanche, effectivement, les questions, elles sont là. Enfin, elles sont fondamentalement là. Et puis, on peut déjà les aider à prendre conscience que, par exemple, on n'a pas tous le même, ne serait-ce qu'avis sur la question. Et ne serait-ce qu'en confrontant les avis, on va pouvoir les mesurer, essayer de les questionner ensemble. Donc d'avoir une pensée personnelle et puis d'élaborer une pensée collective. Ça, entre 3-7 ans, c'est tout à fait possible déjà.
Alors les fameux pourquoi des enfants sont parfois épuisants pour les parents et la famille, Gonelle Boulet. La question qu'on peut redouter, c'est pourquoi on dit pourquoi?
Ouais, et puis celle qu'on redoute aussi, c'est celle qui arrive à la caisse du supermarché. Donc là, il faut, non mais globalement, souvent, il y a plein de moments où objectivement, c'est pas le moment et on peut en reparler. Là, ce que je voulais dire, moi, c'était ce qui est important sur ce questionnement de base, c'est que il peut aussi se tarir. C'est-à-dire qu'un questionnement qui est sans cesse remis à plus tard, auquel on dit tu réfléchiras plus tard, c'est pas de ton âge. Il y a beaucoup de parents qui ont peur d'être mis en échec, je crois aussi. Là, on n'est pas dans une transmission de savoir. On est face à des questions, objectivement, la mort, Dieu, pourquoi il y a des riches et des pauvres, etc. On se retrouve tous dans une forme de difficulté, mais moi, qui je trouve est une chance formidable de remettre à zéro ses propres pensées et ses propres certitudes.
Et oui, quand les enfants posent des questions existentielles, c'est l'occasion de partager, c'est un moment fécond, et on construit ensemble un chemin de pensée, Michel Lafon. Martine Lafon.
Oui.
C'est la canicule. Hein.
Construire un chemin de pensée, je pense que c'est très important. Et c'est vrai que d'aller par étape par étape, c'est aussi important. Mais en même temps, pointer du doigt dans ce qui finalement pose un problème, parce que c'est vrai que Socrate, il avait cette idée-là, c'est-à-dire qu'il était une espèce de mouche qui agaçait ses interlocuteurs pour éviter justement que les beaux discours finalement n'apportent rien. Et donc, il disait, bah voilà, moi je suis l'accoucheur des âmes, je suis l'accoucheur de ceux qui cherchent une connaissance vraie, et comment on va s'y prendre? On va s'y prendre comme ça, par le dialogue. Et puis, on va avancer. Et c'est vrai ce que dit Guénaël, c'est que il faut qu'on ne perde pas l'habitude de se questionner et de chercher une réponse. Et il y avait une phrase de Deleuze que j'aimais beaucoup qui disait il faut dans la philosophie faire du pick-up, c'est-à-dire prendre ce qui est pour moi. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les concepts, mais qu'on cherche un peu ce que disait tout à l'heure Salomé, qu'est-ce qu'on va faire pour réussir sa vie. Et la philosophie, elle va proposer ces itinéraires-là.
Aïda Ndiaye, les réponses, elles sont si importantes que ça? Alors question.
Bah non, c'est un peu le principe, et je pense que ce que disait Gwenaëlle est très important pour moi, et ce qui demeure d'ailleurs à tous les âges, c'est vraiment cet apprentissage de compléter sa pensée par celle des autres, en fait, d'enrichir sa pensée par celle des autres, que ce soit les autres, les pères ou les philosophes, mais bon, évidemment, on peut pas le faire à tous les âges. Et cette dimension, c'est vrai, collective d'apprentissage, en fait, des limites de sa propre pensée, qui est aussi ce qui s'érode beaucoup. Les adolescents que j'ai au lycée sont très dogmatiques, ils ont beaucoup de mal à penser, en fait, l'articulation de différents points de vue. Et pour moi, ça, c'est vraiment le cœur de l'enseignement de la philosophie, c'est montrer que le réel est multiple, en fait, et qu'on peut le voir de plein de manières différentes. Et c'est ce en quoi aussi le fait de pouvoir faire des ateliers en classe avec beaucoup d'enfants, plusieurs enfants, d'apprendre après des règles qui, je pense, sont rentrées dans l'institution d'écoute. Bon, je pense que les instituteurs le pratiquent de toute façon de manière assez générale, d'écoute de la parole des autres, de respect de la parole des autres, mais il y a cette dimension qui est essentielle pour moi.
Julien Bisson, de l'hebdomadaire Le Vent.
Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que les questions de nos enfants interrogent nos propres évidences, interrogent nos présupposés, interrogent ce qu'on prend pour acquis, et que d'un seul coup, avec l'innocence de la question, on s'interroge nous-mêmes sur comment on peut répondre à cette question-là. Mon fils de 3 ans m'avait demandé il y a quelques jours, c'est quoi le temps ? Alors c'est quoi le temps? Ça nous paraît évident le temps, mais quand il faut expliquer le temps à un enfant de 3 ans, je me souviens du coup on avait fait une émission avec Carlo Rovelli qui nous avait parlé pendant une heure
astrophysicien.
Du temps, astrophysicien, c'était passionnant, et ben arriver à donner la complexité de ce que peut être la notion de temps à un enfant de 3 ans, c'est pas très simple.
Qu'est-ce que vous lui avez répondu?
Je lui avais dit que c'était une notion qui s'écoulait, qui faisait qu'il y avait un hier, il y avait un aujourd'hui, il y avait un demain, et il me demande plus souvent si c'est aujourd'hui, demain.
Vous auriez pu aller sur le temps psychologique de Bergson, ouais. Qui dit mettez un morceau de sucre dans un verre d'eau.
Sur le temps psychologique de Bergson.
Et voilà une expérience toute simple par un philosophe tout simple. Enfin pas vraiment. Vous mettez un morceau de sucre dans un verre d'eau et vous attendez qu'il fonde. Et là, il dit, mais le temps de l'attente n'est pas le même que quand j'attends ma fiancée ou quand j'attends mon train ou quand j'attends quelque chose, effectivement, qui est dans une durée plus lointaine. Et ça, je trouve ça formidable. C'est parce qu'on trouve aussi chez les philosophes des petits moyens comme ça. Bon, évidemment, qui font rire les élèves et qui sont intéressants.
Aïda Ndiaye, j'ai puisé quelques questionnements dans votre livre « Je découvre la philosophie ». Que dire à un enfant allé de 6-7 ans qui vous demande « Pourquoi je ne peux pas faire tout ce que je veux ?»
Bah, du coup, la question, enfin, ça dépend un peu de la situation, mais... il faut l'articuler sur la liberté des autres, donc essayer de lui faire comprendre que s'il fait tout ce qu'il veut, les autres aussi feront tout ce qu'ils veulent et que par conséquent ça peut poser un petit peu problème. Et puis après, on peut aussi l'interroger sur qu'est-ce qu'il veut vraiment en fait, parce qu'il y a cette idée quand même de l'immédiateté justement, de la pulsion, du désir. Donc si c'est par exemple à la caisse de pouvoir acheter immédiatement ce qu'il a vu ou si de pouvoir se coucher à l'heure qu'il veut, etc. Bon, il y a aussi cette idée de est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Parce que est-ce que tu as envie d'être fatigué demain à l'école? Est-ce que tu as envie d'avoir 1000 jouets et de t'enlacer? Ou d'avoir un jouet que tu vas adorer? Enfin, voilà, donc c'est essayer de lui montrer que... en fait, il veut pas vraiment ce qu'il veut. Il veut autre chose.
Allez, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. Faut-il proposer des ateliers de philo dès la maternelle, en primaire, au collège? Et puis, si tu es un enfant, bah, n'hésite pas à nous poser des questions sur la vie au 01 45 24 7000. Alexia Rivière, Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Bauve et c'est réalisé par David Leprince.
Moi, je joue. Moi je joue à joue contre joue. Je veux jouer à joue contre vous. Mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur. Alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné. Tant pis c'est bien fait. Vous êtes de mon jouet. À présent, ce ne sera plus vous mais toi. Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi. Sans m'en faire, je vais t'assurer un enfer. De griffes et de crocs, tu crieras bientôt au secours. Alors décidant de ton sort, pour m'éviter quelques remords, je t'aimerai plus fort. Oh oui, plus fort. Oui, 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 plus fort. Oh, plus fort. Oui, oui.
Ah. Brigitte Bardot, moi je joue.
À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça?
Pourquoi c'est comme ça?
C'est où?
C'est qui lui?
Grand bien vous fasse.
Les enfants sont merveilleux. L'enfant est le miroir de l'âme et le révélateur de notre naïveté perdue.
Sur France Inter.
10h25, peut-on philosopher dès la maternelle, en primaire, au collège? C'est notre question du jour, standard ouvert au 01 45 24 7000.
Je dirais ce qui a changé, d'abord c'est la joie que j'ai eue à faire ces ateliers, c'est que chaque fois, des fois c'était des voyages fatigants et tout, j'arrivais, je me disais pourquoi je me suis lancé dans cette aventure, et puis systématiquement, après avoir passé une heure avec les enfants, j'étais en joie. Parce que je voyais à quel point il y avait une soif, une intelligence, donc ça me mettait en joie et je me suis rendu compte à quel point ce que j'avais imaginé était plus vrai encore que je ne le pensais. Les enfants avaient une grande qualité d'intelligence, de capacité de questionner, de s'étonner, de progresser dans la réflexion. Donc ça m'a donné beaucoup d'espoir. Je me suis dit, mais si on cultive ça, on va changer le monde. C'est-à-dire que s'il y avait des ateliers philo dans toutes les écoles du monde, en une génération, le monde va changer. Donc je me dis, il faut commencer modestement, mais il y a un espoir formidable.
Le philosophe Frédéric Lenoir sur France Culture en 2016. Le monde va changer si on généralise les ateliers de philo dès la maternelle partout en France. Martine Lafont, je rappelle que vous êtes docteur en philosophie. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Frédéric Lenoir ?
Oui, je pense que le monde peut changer, oui. On peut effectivement avoir un autre regard, sachant que la philosophie n'est pas là pour apporter des réponses, mais elle est des tentatives de réponses. Et c'est vrai que moi, je me souviens aussi d'ateliers comme lui, où je demandais aux enfants, penser suscite l'indifférence générale, et pourtant il n'est pas faux de dire que c'est un exercice dangereux. Et là, franchement, ils comprenaient, quand on leur demandait pourquoi. Et il y en a qui disaient, mais tout petit, hein, il y en a qui sont morts pour avoir pensé des choses qu'il fallait pas. Et je trouve que, aussi, évidemment, le problème philosophique d'autrui, de l'altérité, de la responsabilité, effectivement, quand on apporte ce regard-là, quand on permet qu'une parole s'exprime, mais qu'une parole aussi chemine, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, soit en marche, et donne le meilleur d'elle-même, jusqu'au bout d'elle-même, je pense qu'on peut changer le monde, oui.
Aïda Ndiaye, je rappelle que vous êtes agrégée de philosophie.
Oui, moi je pense que effectivement, ce qui est essentiel, cet apprentissage en fait qui mime presque la délibération, c'est-à-dire une pensée commune, un espace commun de pensée en fait qui est largement perdu, et on peut dire qu'il y a quand même une certaine crise de la démocratie qui est liée à cette difficulté qu'on a en fait à penser en commun et à trouver une manière de se confronter sans se battre en fait. Ouais. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que je pense il est vraiment, il serait super que ce soit cultivé beaucoup plus tôt que ça se répande.
N'est-ce pas un peu démagogique de penser que tout enfant est potentiellement philosophe, Martine Lafont? Vous nous avez dit hors antenne en préparant cette émission que l'apprenti philosophe est un peu comme un apprenti nageur, il a besoin de bouées.
Oui, parce que effectivement, après le monde de Sophie, qui était quand même une histoire de la philosophie, où effectivement il posait la question à une petite fille, Sophie, qui es-tu, d'où vient le monde, et puis après il déroulait l'histoire de la pensée jusqu'au philosophe contemporain. On a effectivement développé énormément de collections, philo, philo par-ci, philo par-là, etc. Et puis il y en avait qui n'avait peut-être pas l'exigence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que, effectivement, de dire, là, je ne peux pas répondre, je ne sais pas répondre, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien, disait notre ami Socrate. Mais aussi, c'est l'exigence, moi, qui m'intéresse. C'est que on n'est pas seulement dans un dialogue pour dialoguer, et j'entendais bien ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'apprendre aussi que dans un dialogue, l'autre n'est pas un adversaire, mais quelqu'un avec qui je peux échanger, c'est très important. Mais il faut l'exigence de construire les choses.
Gwenaëlle Boulet d'Astrapi.
Ouais, et moi je trouve qu'il y a un enjeu fondamental vraiment pour notre société, notre démocratie, etc. dans cette histoire d'apprentissage. Alors on l'appelle philo, débat à visée philosophique, enfin bon bref, tout ça. Mais c'est vrai que quand on voit ce qui est devenu une discussion sur un réseau social par exemple, c'est-à-dire où l'autre est vraiment perçu comme un adversaire ou un con ou ce qu'on veut, et on s'invective, on ne va pas au bout d'une pensée, on lâche des choses qui sont du vrai, du faux, tout le monde s'en fiche, tout est dans un même panier. Quand on voit que dans des débats politiques par exemple, le fameux exemple devient preuve, ça c'est un truc qui est dramatique pour la démocratie par exemple. Donc moi je trouve qu'il y a un enjeu d'éveiller cet esprit critique qui est fondamental.
Et c'est vrai qu'il y a aussi cette question du temps, en fait, ce que vous disiez de cette exigence, mais c'est aussi le temps du raisonnement. Et on voit aussi, effectivement, alors je ne sais pas si c'est vraiment lié à l'époque aux réseaux sociaux, mais en terminale, les élèves souvent ont du mal, en fait, à s'installer vraiment dans un raisonnement. Ils soulèvent tout de suite une objection, et en fait, il y a aussi cet apprentissage-là, effectivement, de, en fait, penser, ça prend du temps, et construire un raisonnement, ça prend du temps, et il faut apprendre, justement, à laisser ce temps à la pensée de se développer.
Bonjour Morgane, bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Alors, vous êtes animatrice d'ateliers philo, c'est ça, à la maternelle?
Oui, exactement.
Alors, comment ça se passe?
À la base, j'étais conteuse et du coup, je trouvais que c'était pas assez. Donc, j'ai fait une formation pour devenir animatrice d'atelier philo. À partir de la maternelle jusqu'en élémentaire. Et comment ça se passe? Moi, ce que je fais, c'est que les ateliers philo démarrent avec un support. J'ai souvent un livre qui permet ensuite aux enfants de se poser des questions. C'est plus facile pour eux et comme ça, ils arrivent à réfléchir. Et ensuite, je vois avec la maîtresse des thèmes qui peuvent leur parler. Et généralement, pour les petites sections, on essaie de faire les ateliers en fin d'année. Comme ça, ils sont déjà un peu plus grands et ils sont en capacité de parler plus facilement devant les autres. Et l'objectif, en fait, c'est effectivement de réussir à verbaliser, à apprendre des nouveaux noms, des nouveaux mots, mais c'est aussi à comprendre qu'on peut ne pas être d'accord avec l'autre. Et à savoir pourquoi, ou à même être d'accord. Et c'est ça qui est fantastique dans un atelier philo, c'est quand on parle, par exemple, des émotions et de la colère, où on va demander, est-ce que les bébés ont des émotions? Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non, et on va leur dire, ok, très bien. Alors tu dis non, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Il y en a qui vont dire, bah, parce qu'ils sont trop petits, et il y a quelqu'un d'autre qui va dire, bah non, moi j'ai une petite sœur, et quand elle est pas contente, elle pleure, ou quand elle est contente, elle rigole. Ah, alors ça veut dire que les bébés ont aussi des émotions, et entre eux, ils arrivent à avoir ce raisonnement-là, et à interagir et à un peu plus se respecter, en fait. C'est assez étonnant.
À la question « Peut-on commencer à philosopher dès la maternelle ?», Sophie nous dit sur notre page Facebook « À la maternelle, peut-être pas, laissons les petits vivre ensemble et jouer ». Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Alors, moi, je pense qu'on peut faire de la philo en les laissant être des petits, parce que quand il y a un petit, quand on fait les émotions, parce que, voilà, en petite section, on apprend les émotions, donc l'objectif, ça va être, bah, qu'est-ce qu'il y a comme émotion. Et quand il y a un petit qui dit, bah, la colère, c'est quand on réfléchit pas, moi, je trouve que c'est un enfant, mais c'est un enfant qui a drôlement réfléchi, pour dire un truc comme ça.
Alors Morgane, on pourrait peut-être s'inquiéter d'une idéologie de la performance avec des parents qui cherchent avec ces ateliers à surstimuler leur enfant le plus tôt possible. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ?
Alors sûrement, s'il y a des ateliers philo, dans les librairies, les médiathèques, ça va forcément s'appliquer à des parents qui ont envie de stimuler leurs enfants. Après, si les ateliers, ils sont à l'école, ils sont à l'école publique, là, ça touche tous les enfants et c'est là où c'est intéressant en fait.
Gaëlle Boulay.
Ouais, Gwenaëlle Boulay.
Gwenaëlle, pardon.
Je rigole.
C'est la canicule, je dis que c'est la canicule. Vous avez vu les effets?
Ouais, c'est vrai. Hein, c'est...
Et écoutez, j'ai pas encore appelé Aïdan Diaye, Marine Diaye. Ouais.
Non, mais c'est marrant, je rebondissais sur le jeu. Les gens qui disent laissez-les jouer. Mais comme si, au sein, par exemple, du jeu entre enfants, il se passait rien de philosophique. Or, il se passe plein de choses. Il se passe les notions de pouvoir, du plus fort, de qui décide, de la place de l'autre. C'est-à-dire que la petite enfance, c'est pas que un espace dans lesquels tout se passerait merveilleusement bien. Et justement, moi je trouve, emparons-nous de ce qu'ils vivent, et par exemple dans le jeu, mais il se passe des choses incroyables dans l'interaction avec les autres, les rapports de pouvoir, de force, etc. Et là, il y a déjà des questions philosophiques, je trouve, qui se posent et qu'on peut aborder avec eux, alors en atelier ou juste en discussion en revenant de l'école ou ailleurs.
Aïdan Diaye.
Et puis inversement, je trouve que les ateliers, ça peut être super ludique aussi, c'est-à-dire que c'est aussi l'aventure de la pensée quand ils découvrent, quand on fait un atelier sur la vérité, en fait, ils commencent tous par dire, bien sûr qu'il faut pas dire la vérité, enfin qu'il faut pas mentir, pardon, lapsus,
oula,
passons, et à la fin, en fait,
c'est la
canicule, bien sûr.
Exactement.
C'est bien de tout mettre à la canicule, pas, voilà. Donc, c'est la canicule.
Et du coup, ils découvrent en fait que tout le monde ment, que leurs parents leur mentent, que eux-mêmes ils mentent, et donc il y a cette espèce de retournement à un moment, et c'est drôle en fait. Et du coup, ça peut être très ludique aussi, donc c'est pas...
Et là, on remet du Kant, agit de telle sorte.
Morgane, vous avez dit que vous étiez conteuse. J'ai l'impression que les enfants philosophent également grâce aux contes, parce que dans les contes sont abordées de grandes questions existentielles, comme la mort ou la justice.
C'est universel, de toute manière, et c'est bien pour ça que les contes continuent à intéresser autant les enfants, parce que c'est des sujets subversifs, c'est l'abandon, c'est la méchanceté, c'est la jalousie. Et au final, on est aussi dans une société où on tait toutes ces choses-là. Alors que si on en parle et si on discute, on arrive à comprendre pourquoi on les ressent et pourquoi elles nous attirent comme ça. C'est ça qui est intéressant. Et je veux rebondir sur le jeu parce que je pense que les ateliers philo avec les enfants, il faut, surtout en maternelle, il faut rester ludique, d'où l'ouvrage jeunesse. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est clore mes ateliers avec toujours un support. Comme ça, les enfants repartent avec quelque chose. Et par exemple, les émotions, on a fait un dé d'émotions. Comme ça, ensuite, ils s'amusent à jouer. à lancer le dé et à faire sur leur tête les émotions. Et je trouve que c'est génial parce que ils réfléchissent et enfin il se passe plein de trucs dans les ateliers philo et même dès la maternelle.
Merci Morgane pour votre dynamisme à l'antenne ce matin. Alors à la maison, Gwenaëlle Boulay, les questions des enfants, parfois existentielles, c'est le point de départ de conversations fécondes. Et puis ça permet de se remettre en question en tant qu'adulte, de poser un regard neuf sur nos propres pensées, de bouleverser nos évidences.
Ah oui, alors moi je trouve qu'il y a un mot, j'aime bien l'expression de désenquister nos représentations. Il y a un truc que j'aime bien là-dedans, c'est-à-dire je pense qu'on, en tant qu'adulte, alors il y a les philosophes qui peut-être sont complètement pris dans cette pensée, cette remise en question perpétuelle, mais bon, c'est pas la majorité je pense des gens. Et la plupart du temps, on a trouvé, on va dire, une forme de réponse à un certain nombre de questions et puis parfois on les a un peu figées sur une partie de notre vie. Et je trouve que ce soit le rapport à la transcendance, que ce soit le rapport à la mort, etc. Parfois, il y a l'héritage, ce qu'on a eu familialement, il y a ce qu'on a construit, puis on l'a peut-être un peu figé. Et je trouve que l'arrivée des enfants est une formidable aventure pour remettre ça en question. Parce que quand on va avec un enfant, par exemple, à un enterrement, qu'on se retrouve face à cette vraie et profonde question de la mort, alors d'un grand-parent, mais aussi des choses plus difficiles avec des gens plus jeunes, le discours tout fait qu'on s'était peut-être un peu mis en tête, il n'est pas si facile à transmettre tel quel. Et je trouve que c'est une formidable occasion de se redire, voilà, et moi où j'en suis par rapport à tout ça. Idem pour les questions d'injustice, moi je trouve, dans la société où, en tant qu'adulte, on se satisfait un petit peu vite de nos, on se fabrique notre petite pensée, notre petite conscience aussi, parce que c'est comme ça qu'on avance. Et que, face aux enfants qui sont facilement et très touchés par ces inégalités, ces injustices, il faut les repenser un petit peu nos positions, quoi.
Julien Bisson.
Oui, c'est vrai qu'on a, on se fait des armures pour quand on grandit, pour éviter de réfléchir trop à des questions qui nous dérangent. C'est vrai que la pauvreté qu'on trouve dans les rues de la plupart des grandes villes françaises, on s'est presque malheureusement habitué à la voir. Et les enfants qui, eux, la voient pour la première fois, nous la montrent du doigt. Et c'est vrai que en ce moment, ça nous dérange un petit peu. Et tant mieux.
Martine Lafont, peut-on aborder avec les enfants des concepts difficiles? Je prends l'exemple du mythe de la caverne de Platon dans son livre La République. Comment les enfants peuvent s'approprier ce célèbre mythe philosophique?
Alors, moi je trouve que, pour le resituer, il y a des prisonniers qui sont dans une caverne, ils ont le dos tourné au feu qui est sur une colline, ils ne voient passer que des ombres devant eux, et ils pensent que ces ombres, effectivement, ces espèces de fantômes qui passent, sont la réalité. Et puis un jour, il y a un prisonnier qu'on détache et qu'on lui dit « mais non, regarde », etc. Donc, il sort de la caverne, effectivement, il ne peut pas regarder la lumière en face, et il va arriver par degrés jusqu'en haut pour contempler ce que Platon appelle le soleil. Alors moi, ce que je trouve intéressant dans cette petite allégorie, ce petit mythe, c'est qu'est-ce qui nous enchaîne? Qu'est-ce qu'on prend pour des ombres et qui ne sont pas la réalité? Alors lui, il va aller beaucoup plus loin parce qu'il va dire, il faut, à partir du moment où on a contemplé le soleil qui est le bien, il faut redescendre parmi les autres et puis dire, vous savez, le bien, ça existe. Et là, Platon dit, vous savez, il va dire ça, mais tout le monde va avoir envie de le tuer parce qu'après tout, on est tellement bien dans notre petit confort de penser que, les ombres, c'est ça et qu'il ne faut pas s'en détourner. C'est très intéressant parce que, effectivement, la philosophie, c'est pas seulement des concepts, c'est pas seulement raisonner sur des concepts, c'est aussi un engagement, c'est une façon d'être. Parce que sinon, effectivement, on pourrait faire de l'histoire de la philosophie toute sa vie, et c'est ce que vous dites, c'est ne pas s'habituer à la pauvreté, ne pas s'habituer à la fragilité des autres, avoir un regard, effectivement, mais aussi une action. Parce que la philosophie, elle est aussi pensée et action, c'est penser et agir. Parce que sinon, ça sert à rien, effectivement. Tout le monde peut faire de la philosophie, tout le monde peut apprendre un manuel de philosophie, etc. S'engager, c'est autre chose.
Aïdan Ndiaye.
Oui, je vais rebondir sur le rôle, effectivement, des contes, des allégories. Alors du coup, chez Platon, il se trouve qu'il y en a plein, mais c'est vrai que ça permet d'aborder assez facilement, finalement, des philosophes avec des enfants un peu petits. Après, sur la question que posait Morgane, enfin, ou que vous posiez à Morgane plutôt sur la performance, sur le fait que ce serait aussi un espèce de truc un peu social, finalement, comme beaucoup de choses, je pense que justement, c'est pas le cas. À mon sens, évidemment, il y a la question de l'accès, qui peut faire les ateliers, où est-ce que c'est, quelle est l'offre, mais je pense que ça se généralise énormément dans les classes et effectivement dans l'école publique. Et ensuite, je trouve que justement, comme c'est pas véritablement un apprentissage qui passe nécessairement par les textes, enfin, en fait, moi, je parle quasiment jamais des auteurs, des philosophes. Je pense que chez les petits, c'est pas nécessaire. Et là, ça devient un truc un peu social d'avoir son enfant de 10 ans qui peut citer Kant et de, bon, effectivement, donc aucun
moi,
sens.
Je suis inquiète, hein. Ouais, moi, bah, je suis inquiète. Quand t'as 10 ans, je suis inquiète.
Non mais bref. Mais en revanche, l'apprentissage justement de l'exercice de la pensée critique, etc. Mmh. Ça, c'est à mon sens, c'est pas du tout l'apprentissage de la performance. Au contraire, puisque précisément, il n'y a pas de bonne réponse. Donc en fait, c'est pas du tout réussir ou rater. C'est juste, on peut pas rater en fait l'exercice.
Il citait Spinoza à l'âge de 3 ans. Ben voilà. Il est devenu rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1. Julien Bisson, c'est notre toute dernière chronique. Oui. Je suis triste.
Moi aussi.
Et à la une donc du nouveau numéro, quel écolo êtes-vous ?
Oui, alors on va essayer de parler un peu philosophie, puisque les écologistes font preuve de philosophie actuellement. En matière de combat et de mode d'action, ils ont presque autant d'imagination que nos enfants. Et la pensée verte se décline désormais en de multiples écoles, du localisme à la décroissance, de l'écoféminisme au survivalisme, de l'antispécisme au développement durable, de l'écologie de marché à l'écosocialisme. C'est en fait à 50 nuances de vert que les citoyens ont aujourd'hui à faire, sans forcément d'ailleurs bien comprendre les variations de l'une à l'autre, ni les tensions qui peuvent naître entre chacun de ces mouvements, qui, à la même crise écologique, apportent parfois des réponses opposées. Pour trouver une énergie propre, par exemple, est-ce qu'il faudrait réduire fortement notre consommation ou se lancer à bride rabattue dans les technologies d'avenir ? Est-ce qu'il faut compter sur la démocratie locale pour lancer la transition écologique ou avoir recours à une forme de gouvernance mondiale plus efficace, mais aussi plus autoritaire ? Est-ce qu'il faut croire aux promesses du capitalisme vert ou bien au contraire imaginer le plus vite possible un autre modèle pour sauver ce qui peut encore l'être ? Autant de questions que nous nous posons dans ce numéro du 1 et sur laquelle nous continuons de tous nous disputer comme de grands enfants à présent que l'écologie et les fameux colibris de la fable se sont imposés dans le débat public.
Alors est-ce une bonne nouvelle pour la planète, Julien ?
Mais c'est ce qu'il faudra encore démontrer dans les années à venir. Je veux dire, c'est formidable si tout le monde, partis politiques, grandes entreprises, mouvements syndicaux et même associations de chasseurs, se drapent désormais dans la bannière écolo. Mais si, selon la formule d'un philosophe, Sénèque, on est nulle part quand on est partout, alors on peut quand même se demander ce que valent ces professions de foi. On peut toujours faire comme les enfants, affirmer de but en blanc, on n'a qu'à dire qu'on serait écolo. Faut encore passer aux actes. Et si la France entière semble avoir embrassé la religion verte, des millions de non-pratiquants jettent encore des bouteilles ou du papier dans leur poubelle grise et des épluchures ou des sacs plastiques dans leur poubelle jaune. La romancière Alice Fernet signe dans ce numéro un très beau texte sur ses espoirs, ses doutes, et puis ce mot écolo, qui dit-elle pourrait n'être qu'une coquille vide, une prétention sans suite, une fausse préoccupation. Chacun risque de n'être qu'un écolo-fumiste. Si les climato-sceptiques en France se replient, si les climato-cyniques dans le monde demeurent nombreux, les écolos sont-ils pour autant tous à la hauteur ? Qui agit vraiment comme tel et comment ? Je veux bien m'interroger moi-même, quel changement ai-je initié dans mon existence ? Quel geste ai-je inventé ? Mes modes de déplacement, mon alimentation, ma consommation, mon attention, mon regard, qu'est-ce qui a changé ? En fait, mon cher Ali, face à la transition écologique qui arrive, j'ai l'impression qu'on est parfois comme de grands enfants, tous désireux de bien faire, mais pas forcément conscients de ce que grandir implique. Nous savons que c'est une autre histoire qu'il faut écrire, mais on ne sait pas toujours par où commencer. Il s'agit alors de se poser les bonnes questions et tâcher d'y répondre avec philosophie.
Quel écolo êtes-vous ? C'est la question cette semaine à la une de l'hebdomadaire Le 1, à retrouver en kiosque et en librairie. Merci beaucoup Julien Bisson pour ces 3 saisons passées ensemble.
Merci mon cher.
À la rentrée, on vous retrouvera régulièrement à la présentation, à la co-présentation d'une émission hebdomadaire produite par Le 1 et par France Info. Ce sera le mercredi soir, c'est ça ?
Exactement.
Merci en tout cas Julien pour ces 3 années. Allez, dites-nous comment vous abordez les questions philosophiques que vous posent vos enfants ou petits-enfants. Et si tu as un enfant, n'hésite pas à appeler aussi au 01 45 24 7000. Hey, a pair potentat. Type la vie de ton père, même pas celle de ta mère, de personne. Chaque fois, c'est les forces de la nature.
suis venue te dire que tu peux changer.
Hubert Lenoir, fille de personne.
Grand bien vous fasse.
Mon frère Paul avait grandi. Il abordait le soir dans son lit la philosophie des pieds nickelés.
Sur France Inter.
10h47, et si on philosophait dès la maternelle, c'est notre question du jour. Standard ouvert au 01 45 24 7000. Et une question de Salomé, âgée de 10 ans. C'est la fille de notre camarade Gwenaëlle Boulet, rédactrice en chef d'Astrapi. Salomé, on t'écoute.
Qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie?
Waouh! Qui va répondre? Martine Lafont.
Pourquoi vous m'en regardez? Parce que je suis la plus âgée, je peux me retourner pour savoir si j'ai réussi ma vie ou pas, mais je pense que c'est un peu trop tard de se poser quand on est plus âgé. Et réussir sa vie, c'est une inquiétude de tous les jours. C'est, à mon avis, pour moi, ça serait pas seulement. C'est coïncider avec soi-même, c'est. Comment je pourrais dire ça? C'est être en accord avec soi-même. Je pense que c'est ça, réussir sa vie, c'est choisir sa ligne, pour peu qu'elle soit respectueuse et des uns et des autres, et qu'elle construise quelque chose de plus important que soi-même. Mais il me semble que c'est ça, réussir sa vie. Et on parlait tout à l'heure d'engagement. Je pense que l'engagement et la responsabilité de l'autre, c'est ça, réussir sa vie.
Aïdan Diaye, qu'est-ce que vous répondez à Salomé?
Bah, du coup, je lui demanderais ce qu'elle pense être la réussite.
C'est déjà être heureux.
D'accord.
Et il peut y avoir des gens qui sont riches et qui sont heureux, et inversement, qui sont pauvres et qui peuvent être heureux quand même.
D'accord. Et du coup, en quoi est-ce que la richesse, tu penses, ça permet de réussir sa vie?
Pas grand-chose.
Ah oui, non, ce que tu voulais dire, c'était qu'il y en a qui avaient de l'argent et qui n'étaient pas heureux. Et inversement, c'est ça?
Et il y en a qui ont de l'argent et qui sont heureux. Hein.
Oui, c'est ça.
Le sujet de votre émission, nous dit Isabelle, me fait penser à mon fils âgé de 4 ans et demi. Nous étions en voiture et tranquillement, il me pose cette question. Mais maman, à quoi ça sert la vie? Aïdan Diaye, c'est pour vous.
Je vous remercie. que dire? La question se pose. C'est sûr que quand on disait tout à l'heure que les enfants ont ce sens de l'étonnement, évidemment, la question du sens de l'existence, c'est une question qui se pose. Cela dit, pas forcément tous d'ailleurs. Moi, mes enfants se posent assez peu ces questions finalement. Ils ont l'air assez contents. Tout va bien. Je pense que je me la pose plus qu'eux. Évidemment, l'idée, c'est pas d'apporter une réponse, c'est de discuter avec l'enfant, de comprendre déjà pourquoi est-ce qu'il se pose cette question, parce qu'a priori, s'il se pose cette question, c'est qu'il a le sentiment que la vie n'a pas de sens, en fait, ce qui, pour un enfant petit, peut être assez, d'ailleurs, abyssal, en fait. Et donc, moi, je partirais toujours de là, de pourquoi est-ce que tu penses que la vie n'a pas de sens, ou doit avoir un sens, d'ailleurs, et qu'est-ce que ça veut dire aussi d'avoir un sens, bien sûr.
Une question tirée de votre livre, Aïdan Diaye, Je découvre la philosophie. Pourquoi doit-on faire attention aux autres?
Alors ben, c'est pareil, il faut toujours partir de ce que les enfants répondraient. Et je pense que il peut y avoir cette idée de d'un côté la réciprocité, faire attention aux autres pour que les autres fassent attention à nous en fait. Et il y a quand même cette dimension importante, surtout chez des tout petits qui apprennent le partage dans le jeu, justement précisément de partager leurs jouets, etc. Bon, et ça fait partie une grande partie de l'apprentissage des élèves en maternelle, l'apprentissage des règles, de la collectivité. Et puis, bah, après, on peut justement ouvrir sur la question de savoir si on fait attention aux autres seulement pour qu'ils fassent attention à nous, est-ce qu'on leur fait vraiment attention à eux, et dans quelle mesure est-ce qu'on n'a pas aussi envie que les autres fassent attention à nous pour nous.
Le problème philosophique, c'est aussi le doigt. Pourquoi je dois ?
Bien sûr,
c'est-à-dire quelle est l'obligation morale qui fait que je dois m'occuper des autres. C'est ça qui est aussi intéressant à développer et à leur faire comprendre.
Thibault nous demande par courriel, mon fils souhaite savoir pourquoi sa mère va au travail. Quelques éléments pour compléter ce que je lui dis, Aïdan Diaye. En plus, c'est une question posée dans votre livre. Il y a d'ailleurs un CD dans votre livre avec des chansons qui accompagnent vos textes et les dessins.
Et une fantastique chanson sur ce thème. Là, de la même manière, je pense que c'est, pour le coup, c'est quelque chose de beaucoup plus concret, parce que les enfants voient leurs parents aller au travail la plupart du temps. Ils voient aussi l'impact que ça a sur leur vie à eux, puisque du coup, c'est des moments où leurs parents ne sont pas là et souvent peut-être du temps qu'ils préféreraient passer avec leurs parents et souvent réciproquement aussi d'ailleurs. Et donc, il peut y avoir une réflexion quand même, je trouve, pour le coup, assez simple sur qu'apporte le travail et pourquoi est-ce qu'on s'impose cette contrainte. Et ensuite,
ou cette joie.
Cette joie, bien sûr, j'adore mon travail. Bien sûr, non mais
le travail est-il une aliénation?
Le travail comment tout. Mais justement, l'idée c'est de déboucher après sur la production, sur l'œuvre, ce que eux-mêmes peuvent faire à l'école quand ils font un dessin, quand ils font quelque chose, quand ils produisent quelque chose. Et là, justement, de montrer que c'est pas que une contrainte, ça peut être une source de satisfaction. Aussi.
Gwenaëlle Boulay, comment on s'y prend pour démocratiser, développer l'esprit critique à la maison? Comment on fait? Comment vous y prenez-vous, tiens, dans votre famille?
Déjà, je ne sais pas si j'y arrive bien. J'aime bien donner des conseils à la radio, mais chez moi, je suis nulle.
On t'en voudra pas, il y a l'effet canicule.
Oui, il y a l'effet canicule toute l'année.
Non. Salomé ne dit rien.
Elle dessine. Continue à dessiner. L'esprit critique, si, je pense que quand même cette idée de rebouleverser les évidences ensemble, je pense que c'est important. C'est-à-dire que, comme tout le monde, je pense que voilà, je me suis fait des idées sur un certain nombre de choses. Et en tout cas, quand la question arrive de se redire, tiens, j'accepte de revenir un peu au basique et moi-même de me re-questionner avec eux, ça déjà, je trouve que c'est assez extra, quoi. Et puis c'est un âge, par exemple, à partir du primaire, où faut accepter d'être un petit peu bousculé. C'est-à-dire que les enfants vont commencer à entendre des choses, par exemple, à l'école, chez leurs copains, chez les parents, des copains, etc., qui sont pas forcément les mêmes que ce qu'ils vont entendre. Le moment des élections, par exemple, je trouve très intéressant, même s'ils comprennent pas forcément tous les enjeux, etc., de pouvoir essayer de travailler ensemble sur globalement ce que présentent les uns et les autres. Je trouve que c'est un exercice qui est très intéressant et rigolo à faire en famille. Donc il y a plein de moments pour le faire.
Aïdan Diaye.
Effectivement, je pense que en famille, le problème c'est quand même le temps. Du coup, ça, c'est parce que, comme on a dit, et ça reste juste que il faut le temps de la réflexion, cette exigence. C'est moi, ce que je trouve compliqué, c'est vraiment de dégager du temps. Donc après, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de supports, de livres qui permettent justement aussi aux parents d'avoir un objet en fait autour duquel se réunir pour discuter. Et après, sur la démocratisation, comme on le disait tout à l'heure, il y a aussi énormément d'instituteurs qui se forment et qui développent cette pratique en classe en fait.
Oui, et puis il y a vraiment plein de choses du quotidien là. Il y a quelque chose qui me revient, par exemple avec Salomé, on a une grande discussion sur sur les questions de, comment on va dire ça, des petites filles qui déjà étaient habillées comme des grandes filles avec des codes qui étaient vestimentaires et autres, pas forcément à mon avis de leur âge. On a eu toute une discussion autour et toi qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire que, au lieu d'aller directement dans la critique de l'exercice, ce qui vient tout de suite, c'est évident, on a envie d'asséner un petit peu ce qu'on pense. Donc c'est la première, c'est ce qui vient. Mais après, en deuxième temps, on a eu une discussion sur, et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire, tu as cette envie-là de faire comme ces filles-là, par exemple, mais profondément, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu en penses? Et ça, c'était très intéressant.
Et qu'est-ce que tu en penses, Salomé?
De ces
filles de ton âge qui s'habillent comme des grandes, des préadolescentes ou des adolescentes, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu en penses?
Ça va, parce que c'était une discussion qui était complexe, parce que ça met en branle des envies, et puis voilà.
Et t'as le droit de pas répondre, tiens, à l'animateur qui te pose cette question.
Justement, c'est souvent aussi, c'est ce que dit Gwenaëlle, c'est sur des... Ce qu'ils disent, par exemple, mon petit-fils, il dit souvent, j'ai le droit.
Oui, c'est vrai.
Bon, ouais. J'ai le droit. Bon, alors, d'accord, on y va, on discute. non, surtout. Ah non, on n'y va pas.
Merci à toutes d'être venues. Hyde and Dye, on peut lire avec profit, avec les petits. Je découvre la philosophie, c'est publié chez Nathan. Deux volumes des grandes questions philo, c'est publié chez Astrapi et Bayard Jeunesse. Et puis cet été, on peut lire le... C'est hors-série ou c'est...
Non, c'est le numéro de l'été.
C'est le numéro de l'été qui s'appelle Vive les vacances.
Ouais, et je précise juste quand même que chez Bayard, quand même, que ce soit à Pomme d'Api pour les petits, à Astrapi ensuite pour les 7-11, on a une rubrique philo dans tous les magazines. Donc tous les mois, on retrouve des rubriques philo.
Et donc à la une, vive les vacances. Et vive les vacances avec vous, Laure Grand-Besançon. Bonjour.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir parce que vous proposez un formidable podcast à destination des enfants. Ça s'appelle Les Odyssées. Expliquez-nous ce que les enfants vont pouvoir entendre.
Alors Les Odyssées, c'est en fait des récits. D'aventures, d'histoires, de mystères. On se plonge dans les grandes heures de notre humanité. On parcourt le monde, on va dans l'espace, on voyage à travers le temps. Et voilà, c'est 10, 12 minutes, 13 parfois, assez illustrées avec des musiques, des ambiances. Et c'est vraiment des petits moments où on part ailleurs, quoi.
Et qu'on va pouvoir écouter dans la voiture, par exemple.
Dans la voiture, dans le train, chez soi, dans sa salle de bain, partout.
Tout au long de l'été.
Tout au long de l'été, après, à plusieurs, en famille.
Alors, si on écoutait un extrait des Odyssées, un extrait consacré à la mission Apollo 11.
Dans les années 1960, deux pays s'affrontent pour devenir le plus puissant du monde. À l'est, la Russie. À l'ouest, les États-Unis. Le combat n'a pas seulement lieu sur Terre, il se déroule aussi dans l'espace. Les États-Unis sont prêts à tout pour battre la Russie. Ils décident d'accomplir un exploit grandiose. Tu veux savoir lequel ? Envoyer l'homme sur la Lune. Le nom de cette fabuleuse mission ? Apollo 11. Tu vas entendre le récit de l'aventure la plus extraordinaire de tous les temps. Au cours de ce grand voyage cosmique, tu vas parcourir une distance d'environ 384 000 km. Ça fait loin, dis donc. Tu seras plongé dans le vide. Et tout sera comme recouvert d'un épais manteau noir.
La voix captivante de Laure Grand-Besançon. Quand on est adulte, on a le droit d'écouter aussi.
Ah oui, ça c'est tout le monde est invité.
Vous nous disiez hors antenne, Hyde and Dye.
Bah moi, mes enfants écoutent beaucoup de podcasts, donc Oli, ça peut pas faire de mal quand c'est possible. Et du coup, je suis ravie d'en avoir encore plus parce que c'est la demande permanente.
Merci beaucoup, Laure Grand-Besançon. Les podcasts, le podcast des Odyssées, disponible sur les plateformes type iTunes et sur le site de France Inter. D'autres thèmes?
La découverte du tombeau de Toutankhamon, le grand voyage de Christophe Colomb, Calamity Jane, Martin Luther King, Pouilly, le dernier empereur de Chine, la Révolution française.
Je suis déjà abonné, Laure Grand-Besançon. Merci génial. À vous d'être venu. Demain, on se demande à quoi bon voyager. Nous recevrons l'écrivain Cédric Gras, le journaliste Ismaël Khalifa et le romancier Julien Blangras. Pourquoi voyagez-vous? Quels sont les voyages qui vous ont profondément transformé? Dites-nous également si vous détestez les voyages. Standard ouvert au 01 45 24 7000. Dans quelques instants, vous retrouvez Nagui et sa bande originale, Leïla Kadour, Daniel Morin et Tanguy Pastureau. À la technique ce matin, Pauline Laverdure.